Chapitre 9. Vers le but imprévu. Vous me demandiez, dit le soir, rentré dans sa chambre, Martin Dumas à son lieutenant Prosper, vous me demandiez pourquoi je n'ai pas tiré sur le commandant, sur le chef de ces bandits, quand l'occasion s'offrait de me débarrasser de lui d'un bon coup de revolver. Oui, chef, j'avoue que cela m'étonne et que plus d'un avec moi déclara ne rien y comprendre. Je pourrais vous répondre que j'ai mon plan et m'en tenir là, mais j'aime bien vous donner quelques renseignements. D'ailleurs, la maison est tout à fait raison et tout à fait simple. En deux mots, la voici. Bien, chef. Vous semblez, mon bon Prosper, et vous aussi, Philippe, oublier l'affaire première, j'allais dire le début de toutes ces aventures. Nous courons depuis quelque temps après des gens qui paraissent sortir devant nous comme des diables sortent d'une boîte à surprises. Mais cependant, nous ne nous écartons pas, à quoi qu'on puisse dire, de l'affaire première. Cette affaire, vous en souvenez-vous? Il y en a plusieurs en train, chef. Mais il y en a une première, d'où découlent, pour ainsi dire, toutes les autres. Le souterrain de la rue Lamartine, qui fait explosion. La banque de M. de Krapps. Les attaques des Rochers de Fontainebleau, l'aventure des Anglais, et avant cela, l'affaire du diamant rose, les faux monnayeurs, l'attaque de la villa, le duel bizarre de ce matin, l'attaque de l'automobile, l'aventure de notre pauvre ami Courville, et tant d'autres. Tout cela, c'est la même affaire sous diverses phases. Tout se tient. C'est la suite de la disparition du garçon de recette, Éloi Vidal. Prosper et Philippe, qui écoutaient, sursautèrent. En effet, firent, dit-il, en effet. Nous cherchons le garçon de recette qui a disparu dans de si bizarres circonstances. Nous ne le trouvons pas. Et je sais que certains journaux ne se font pas faute de critiquer notre façon d'opérer. On blague, si je puis me permettre ce mot, on blague, parce qu'ouvertement à présent, non seulement la brigade de Martin Dumas, mais sa méthode, bref, Martin Dumas pourrait aussi devenir un héros de feuilleton policier. Martin Dumas se mit à sourire et ajouta, « D'ailleurs, mon ami Courville m'a rendu un singulier service en racontant déjà quelques-unes de mes aventures. Et je suis obligé maintenant, non seulement de montrer le criminel que j'arrête pour qu'on y croie, mais aussi le crime et de déclarer, sous la foi du serment, de faire constater par des experts que la victime ne s'est pas faite assassiner pour m'être agréable, que ce n'est pas un compère à moi, ô chef. D'ailleurs, j'ai pris le bon moyen pour découvrir toute ce critique. Je suis mort. Ô mort. Oui, je suis mort depuis assez longtemps. Quand je reparaîtrai, ce ne sera qu'au moment d'une affaire sensationnelle avec un résultat. Oui, chef, il nous faut un beau résultat. Nous l'aurons, mes amis, nous l'aurons, patience. Martin Dumas reprit. En attendant, comme je suis mort, c'est vous deux, Prosper et Philippe, mes élèves, mes amis, qui avait hérité de la dure charge de me remplacer. Oh, chef, c'est impossible. Martin Dumas calma du geste leur protestation. Nous avons assumé la tâche de découvrir Éloi Vidal. Nous devons retrouver Éloi Vidal. Oui, chef, cela nous le devons non seulement à notre gloire, mais encore à la bonne justice. Il est impossible que ce crime demeure impuni. Martin Dumas ajouta, « Or, mon opinion, qui n'a pas varié depuis le début, est qu'Éloi Vidal n'a pas été tué. On l'a dépouillé, mais on le tient quelque part prisonnier. » Le roi des détectives, après un geste de la main, reprit, « Ou bien Éloi Vidal, comme j'en ai conçu le soupçon dès la première heure, rompant tout à coup à son passé de droiture et d'honneur, pour une raison trop facile à exprimer, a brisé sa vie de brave homme, de loyal serviteur. Dans un moment d'égarement, il a commis la faute. À son âge, après une vie de dévouement, le fait est assez rare, mais il n'est pas impossible. Martin Dumas s'expliqua. Vous vous souvenez, mes amis, des premières constatations que j'ai faites dans le bureau du garçon de recette? J'ai trouvé dans la poche de son vêtement de ville des fleurs, des bribes de tabac d'Orient et des bouts de papier à cigarettes dorées. Oui, chef, vous avez aussi trouvé dans le tiroir du bureau du garçon de recette, bien caché, une carte postale. Oui, avec une femme qui souriait. La femme aux yeux noirs, qui venait chez ce marchand de reconnaissance, et qui jouait la commère au théâtre de La Fontaine. Parfait, parfait. Et la jeune femme qui était petite, bonne, chez les braves rentières de la rue du Débarcadère, et la nièce, et parente d'un locataire de la rue Milton. Parfait, mais vous n'oubliez aucun détail. Martin Dumas conclut. Donc, deux hypothèses se présentent à nous. Éloi Vidal est devenu amoureux de la commère aux yeux noirs. Pour elle, il a détourné l'argent qu'il devait encaisser. Ou bien Éloi Vidal, attiré dans un guet-apens par le moyen de cette jeune femme aux yeux noirs, a été la victime de ces bandits. Ils ne l'ont pas tué, je le crois, je l'espère, mais ils le retiennent prisonnier en quelque cachette. Prosper et Philippe eurent le courage de soulever une objection devant leur chef. Pardon, chef, dit Prosper après avoir consulté son ami Philippe du regard. Pardon, chef, de vous interrompre sur ce point, Philippe et moi. Ah, eh bien, nous ne pensons pas que les bandits puissent séquestrer Éloi Vidal. Et pourquoi? Ce serait pour eux une charge lourde, un surcroît de précautions à prendre et de gros risques inutiles à courir. Martin Dumas approuva. Très bien alors. Nous pensons que votre opinion première est la bonne. Éloi Vidal a commis la faute de se laisser séduire, si l'on peut dire ainsi, en parlant d'un homme de son âge par les charmes de cette jeune femme, et qu'il a été attiré dans un guet-apens, et tout bonnement roué. Martin Dumas se mit à rire. Et maintenant, dépouillé, il n'ose plus reparaître, il se cache. Oui, chef. Cette opinion peut se soutenir, en effet. Ce fut la mienne, il se peut que ce soit la vraie. Mais il est un seul homme qui puisse nous renseigner sur ce point. Ce n'est pas Éloi Vidal, c'est le chef de la bande. C'est le tatoué. Prosper et Philippe sursautèrent. Le tatoué? Oui, parfaitement, le tatoué. Mais chef, le tatoué, c'est le commandant. Vous le teniez au bout de votre revolver, vous ne pouviez le manquer. Le tatoué, reprit Martin Dumas avec son calme habituel, le tatoué était monsieur de Craps, c'est certain, je l'ai constaté. J'en ai eu la preuve. Mais je n'ai pas la preuve aujourd'hui encore que le tatoué soit réellement le fameux commandant Raymondin. Mais chef, ne l'avez-vous pas surpris chez lui le matin avant qu'il eût collé ses moustaches? On le surprit en effet, mais quand il parut devant moi, il était encore le commandant Romondin, et rien ne m'indiquait que le commandant était le tatoué. Martin Dumas confessa. J'avoue que j'espérais, au cours de ces derniers événements, pouvoir, sur ce point intéressant pour nous plus que tout, établir ma conviction. J'espérais que le commandant se dévoilerait mieux. Qu'une circonstance quelconque, blessure, capture, corps à corps, me permettrait de déchirer le veston du commandant et de mettre à nu sa poitrine comme là-bas dans la banque. Eh bien, cette satisfaction ne m'a pas été donnée. C'est à recommencer. Il faut attendre, mes bons amis, il faut attendre. Prosper et Philippe courbèrent la tête. Ils obéissaient, mais ce n'était pas leur opinion. Martin Dumas les tenait sous son regard d'acier. Évidemment, ils devinaient les pensées qui bouillonnaient en leur cervelle. Il reprit, allant au-devant de nouvelles objections. Le tatoué seul, chef de la bande, devient le secret. Lui seul est à même de nous renseigner, de nous documenter, de causer notre succès. Et pour cela, il faut le prendre. Oui, le prendre vivant. Et c'est pas commode. Le tatoué se garde, se défend admirablement. Est-ce à dire que nous n'y parviendrons pas? Et devons-nous dès maintenant renoncer à la lutte? Est-ce donc votre idée? Prosper et Philippe protestèrent énergiquement. Non, mon chef, il faut combattre sans merci. Bien. Alors pensez-vous donc que j'ai mal agi, mal conduit cette affaire? Oh non, chef. Je n'ai pas tiré sur le commandant parce que cet homme mort. Non seulement nous n'eussions pas obtenu grande victoire, mais au contraire, nous serions trouvés en face d'éléments nouveaux, d'adversaires inconnus. C'était toute une campagne nouvelle à établir. Car en quelques mains serait passée sa succession? Qui aurait pris le commandement de sa troupe? Nous ne pouvons pas le savoir. Oui, nous ne pouvons pas le savoir. Tandis que maintenant, nous savons non seulement qui est le chef de nos ennemis, mais encore où se trouve leur lieu de rendez-vous. Nous pouvons les surveiller jour par jour, heure par heure, prévenir leur attaque, déjouer leurs plans, et remporter sur eux des avantages que personne ne peut contester. Et Martin Numa ajouta, « De plus, mes amis, nous avons à éclaircir un point nouveau. Le dissident, celui qui est parti de la grotte, furieux de la défaite, se séparant du chef. Ah, parmi les griefs qu'il énumérait contre le commandant vaincu, défait dit ceci. Vous détenez dans votre maison de Melun un Martin Numa et un Prosper, seulement ce ne sont pas les vrais. Voici ce que nous devons vérifier et mettre à jour. Cependant, comme ces hommes semblaient fatigués, on le serait à moins, le roi des détectives rompit brusquement l'entretien là et les envoya se reposer. Lui-même prit ses dispositions pour se mettre au lit et goûter un peu le sommeil dont il avait grand besoin. Cependant, Philippe et Prosper, avant de se séparer et de gagner chacun la chambre, se dirent, quand leur chef ne pouvait les entendre, « Demain, tâchons de nous trouver tous deux dans un coin où nous puissions parler un peu, en dehors de l'oreille du chef. » Pendant que Martin Numa, après déjeuner, causait avec ses hôtes, on le comprend, fortement impressionné, pendant que l'on faisait l'enquête sur le combat de la nuit, l'attaque par les cambrioleurs, Prosper et Philippe se glissèrent dans le parc et purent s'abriter derrière un bosquet. « Mon cher, dit Prosper, le chef joue trop avec sa vie. » Oui, il récolte à ce sujet quantité de blessures sans grand profit. Mais sans nous, sans notre intervention déjà, on leur aurait fait un mauvais parti. Mais on nous l'aurait tué. Hier encore, il s'exposait aux balles du commandant sans répondre. Il m'entraînait avec lui à l'assaut du château, gardien de bandits qui tirait sur nous tant qu'il pouvait. « Oui, dit Philippe, oh, sans l'arrivée de l'automobile, vous étiez dans une vilaine passe. Je me méfie du chef maintenant, et je donne toujours des ordres pour qu'on vienne à notre secours, qu'on ne nous perde pas de vue. » « Moi, dit Philippe, me suis mis à la poursuite du chef dissident. Et vous avez découvert quelque chose ?»« Oui, un indice, un renseignement seulement, qu'il nous faudra étudier de près, approfondir. » Oh, je vous expliquerai cela plus longuement. En tout cas, ce qu'il faut, c'est que vous me secondiez dans un projet. Mais volontiers. Voici. Les dissidents se sont donné rendez-vous dans la forêt de Fontainebleau, vers la table du grand maître. Oui, je vois l'endroit. Ils sont demain vers 5 heures du matin. Bon, alors, vous pensez vous y trouver? Il faut que j'y sois, j'y serai. Et sans doute vous tenez à ce que je vienne avec vous. Oui. Pendant la nuit, Philippe parvint à sortir de la ville sans éveiller les soupçons de personne. Et seul, courageusement, Philippe s'engagea dans la forêt. Il allait épier la nouvelle bande en formation. Pour passer inaperçu, sans soulever la curiosité des veilleurs des ennemis, il avait revêtu un costume de garde forestier. Ainsi, il pouvait être pris pour un garde en tournée de nuit, dans le cas où il serait aperçu.